Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
Mardi 28 juillet, 7h30 sur Radio Classique.
La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundy.
Oui, le journal de 7h30 signé Marc Tédé. Alors, avant d'évoquer les nouvelles restrictions liées à l'épidémie, bien sûr, on va commencer avec vos impôts, les bonnes recettes de l'État dans la collecte de l'impôt et les déclarations de revenus, Marc.
Oui, alors que les avis d'imposition seront disponibles en ligne dès demain et envoyés par courrier début août, près de 34 millions de foyers fiscaux ont déclaré leurs revenus en ligne ou de manière automatique cette année. Les télédéclarations ont augmenté de 9% par rapport à l'an dernier. Si l'impôt sur le revenu est désormais retenu à la source, il faut encore acquitter soi-même d'autres impôts comme la taxe foncière et pour certains la taxe d'habitation. À partir d'aujourd'hui, vous pourrez également le faire dans des bureaux de tabac. 5100 participent désormais à la collecte partout en France. L'expérimentation avait été lancée en février dans 18 départements, comme dans l'Oise par exemple. Plus d'explications avec Sarah Loubacouche.
Noyon, commune de 13 000 habitants dans l'Oise. Dans son centre, sa cathédrale Notre-Dame et à deux rues, près de la place de la République, son bar tabac. Depuis le mois de février, les clients de Julie, la buraliste, peuvent y régler directement leurs taxes d'habitation, factures de cantine, amendes ou encore frais d'hôpitaux.
C'est super simple. Sur la même machine de la Française des Jeux, les personnes, elles viennent avec leur courrier et elles passent comme un jeu Française des Jeux. Au début, il n'y avait personne. Hein. De plus en plus, c'est arrivé. Depuis la fin du confinement, on est à 2-3 par mois.
Le trésor public de la commune n'est ouvert que quelques demi-journées par semaine et s'apprête à fermer pour de bon.
Moi, je suis ouverte de 6h30 à 19h30 tous les jours.
Un service indispensable pour cette commerçante qui déplore la disparition des services publics de proximité. Mais ce substituer à l'administration ne lui rapporte pas grand-chose. Pour chaque transaction, elle empoche seulement
1,50€. C'est pas ce qui va nous faire gagner notre vie. Hein.
Si Julie propose cette option, c'est donc pour se rendre utile.
Toutes les personnes âgées, par exemple, le fait d'être là, d'avoir une grande amplitude horaire, ils savent qu'ils peuvent compter sur nous. On est là pour les écouter, on est là pour les aider.
Attention toutefois, si l'objectif est de généraliser dès aujourd'hui les paiements dans les bureaux de tabac sur l'ensemble du territoire, ne sont pour l'instant concernés que 5000 buralistes volontaires implantés un peu partout en France.
Voilà, il va falloir donc s'habituer. Précision signée Sarah Lou Bacouche. Le président de la République, Emmanuel Macron, annonce une indemnité spécifique pour les policiers travaillant la nuit.
Oui, pour un montant total de 10 millions d'euros, annonce faite hier soir par le chef de l'État lors d'un déplacement surprise de près de 2 heures à la rencontre des policiers dans les 17e et 18e arrondissements de la capitale. Emmanuel Macron, qui était accompagné pour l'occasion de Gérald Darmanin, le nouveau ministre de l'Intérieur, qui indique par ailleurs le dépôt d'une plainte contre le maire de Colombes pour injure publique envers la police nationale et la gendarmerie. Lors d'une cérémonie publique, Patrick Chemovitch avait comparé les forces de l'ordre à la police de Vichy. Gérald Darmanin, lui, doit faire face en ce moment à des accusations de viol et il a reçu hier soir le soutien appuyé de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Je vous propose d'écouter l'ancien chef de l'État invité hier soir du journal de TF1.
Gérald est un ami. J'ai pu compter sur sa fidélité et sa solidité. Je suis quelqu'un de fidèle. Il peut compter sur mon amitié. Quant au reste, la lutte pour le droit des femmes et pour le respect des femmes, c'est pas une plaisanterie. J'avais moi-même mis en œuvre tout un tas d'éléments contre les violences conjugales. Mais je vous demande de bien comprendre ça. Sans la présomption d'innocence, il n'y a pas de démocratie. Il n'y en a pas. Et spécialement dans un pays comme le nôtre, le respect de la présomption d'innocence. Je ne le dis pas parce que Gérald est un ami, je le dis pour la démocratie française et pour l'état de droit.
L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, donc hier soir sur TF1. 7h34 sur Radio Classique, on continue avec vous Marc Tédé. Le projet de loi bioéthique de retour à l'Assemblée nationale jusqu'à vendredi en deuxième lecture.
Le projet de loi prévoit notamment l'absence d'anonymat pour les donneurs de sperme. Ces derniers devront forcément accepter de voir leur identité révélée à l'enfant si celui-ci le demande à sa majorité. Rémi Pfister.
En 2009, Frédéric réalise un don de spermatozoïde. Sans l'anonymat, sa compagne n'aurait pas accepté. Mais aujourd'hui, Frédéric est favorable à ce que les enfants nés de PMA puissent accéder à leurs origines.
Je pense que ça peut être important pour les enfants. Maintenant, il y a les tests génétiques. On ne peut plus garantir aujourd'hui à un donneur qui restera toute sa vie anonymat. Et donc, c'est pour ça, moi, je suis plutôt favorable à ce que seuls les donneurs qui sont vraiment favorables au droit d'accès aux origines puissent faire un don.
Célibataire, Gwendoline, elle, a eu recours à la PMA grâce à un don en Espagne. Sa fille de 3 ans ne connaîtra jamais l'identité de son donneur, car en Espagne, c'est anonyme. anonymes. L'accès aux origines, pour elle, c'est un droit en plus accordé à l'enfant.
C'est pas quelque chose que je lui cache, ça fait partie de son histoire. À partir du moment où vous donnez la possibilité à un enfant d'avoir le choix libre à ses 18 ans d'aller savoir qui est son donneur. Après, ça reste un donneur, c'est pas un parent. Hein.
Mais alors, la levée de l'anonymat ne va-t-elle pas dissuader de potentiels donneurs? Pour le professeur Israël Nizan, il faut observer les pays qui ont déjà légiféré en ce sens.
Dans un premier temps, ça a baissé, puis ce sont d'autres donneurs qui sont venus, qui n'ont pas honte du tout de ce geste de générosité. On aura des donneurs, mais pas dans le contexte de l'anonymat, c'est-à-dire ni vu ni connu, je te cache tout.
En 2016, seuls 363 dons ont eu lieu en France, c'est le taux le plus faible d'Europe. Les associations militent pour qu'une campagne de communication ait lieu sur les dons de gamètes.
Rémi Pfister.
L'épidémie de coronavirus a fait 17 nouveaux morts depuis vendredi en France. La circulation du virus reste soutenue, nous dit-on.
Oui, c'est ce qu'indique la Direction Générale de la Santé qui invite à rester mobilisé pour éviter une reprise. Il existe en ce moment même 224 foyers de contamination encore actifs et notamment dans le Morbihan. À Quiberon et à Saint-Pierre-de-Quiberon, les plages sont désormais interdites d'accès en soirée et dans la nuit. Au moins une cinquantaine de cas ont en effet été recensés là-bas. Et selon la préfecture, il s'agit de jeunes de 15 à 20 ans qui auraient participé à des fêtes privées ou à des soirées dans une discothèque qui a été fermée. Le préfet du Morbihan, Patrick Faure, appelle ces jeunes à venir se faire tester dans les points de dépistage qui ont été mis en place. Patrick Faure.
C'est extrêmement important pour nous, d'abord qu'ils viennent se faire tester, et ensuite qu'ils se mettent en confinement pendant quelques jours, de façon à être certains de ne pas contaminer celles et ceux qu'ils vont croiser ou qu'ils pourraient croiser. L'immense majorité de ces jeunes sont asymptomatiques, ce qui pose une autre difficulté, c'est d'abord qu'ils ne se sentent pas malades, donc pour eux il n'y a aucune raison d'aller consulter, d'aller se faire tester premièrement, mais deuxièmement surtout, c'est qu'ils peuvent à l'issue de leurs vacances ou très prochainement rejoindre leur famille, leurs parents, leurs grands-parents, leurs oncles et tantes et voisins, et diffuser encore plus ce virus à des personnes qui n'auront pas leur âge, qui seront sûrement un peu plus âgées, plus fragiles et qui peuvent être conduits jusqu'en réanimation.
Et le préfet du Morbihan, Patrice Faure, et puis conséquence de la crise sanitaire, le trafic aérien à Paris ne retrouvera pas son niveau de 2019 avant 2024, voire 2027. C'est ce qu'indiquait ce matin sur l'antenne de Radio Classique Augustin de Romanet, le PDG d'ADP, le gestionnaire des aéroports parisiens, Augustin de Romanet, qui était votre invité, Fabrice, il y a quelques minutes.
Juste.
En Gironde, l'incendie qui a ravagé hier 250 hectares de pins ne semble plus progresser. Désormais, 181 pompiers et 4 canadairs ont été mobilisés pour en venir à bout. L'origine de ce feu qui a pris à 60 km au sud de Bordeaux, près de la commune du Tuzan, reste pour le moment inconnu.
Merci, à tout à l'heure. Marc Tédé, il est 7h37 sur Radio Classique. Bonne matinée à tous. On est ensemble jusqu'à 8h et puis c'est Bernard Poirette qui prendra la suite. Bien sûr, jusqu'à 9h, son invité politique, Dominique Régnier, professeur à Sciences Po, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Dans un instant, je vais vous retrouver avec les spécialistes de l'écho, avec cette première série de mesures en faveur de la transition écologique, comme l'interdiction des terrasses chauffantes. Mais quelle est la logique derrière ça? Est-ce qu'on se pose toujours les bonnes questions? On en parlera avec Arnaud Marion et Alain Fabre. Et puis juste avant 8h, David Barou des Échos. Vous verrez comment Michelin, impacté par la crise, mise lui aussi sur la voiture électrique. On se retrouve vite.